Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mag au carré, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag au carré. Pour animer cette émission, je suis évidemment accompagnée par Audrey Jourdain, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré, comment allez-vous ?
Très bien, et vous Bérénice ?
Très bien, en pleine forme. Nous avons également deux invités aujourd'hui pour un thème très intéressant, puisque l'émission d'aujourd'hui est consacrée aux résidences étudiantes, avec un rebond spectaculaire de plus de 1000% sur un an à l'investissement pour le premier trimestre 2022, donc belle année pour les résidences étudiantes. Pour en parler justement, deux invités, l'un est sur le plateau à nos côtés, Pascal Recorbet, bonjour.
Bonjour.
Président fondateur du groupe Néméa, dont Néméa Appart Études fait partie, donc exploitant de résidences étudiantes. Vous allez nous expliquer, nous présenter le groupe dans quelques instants. Vous allez bien ?
Très bien, impeccable.
Et puis à distance, Louis Romieux, bonjour.
Bonjour à tous.
Président du groupe Atao, promoteur de résidences étudiantes.
Tout à fait.
Bon, eh bien écoutez, on est prêt pour faire une belle émission. On commence tout de suite avec votre édito, Audrey.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Débutons par une excellente nouvelle. Le marché immobilier français de l'investissement en résidences étudiantes a rebondi au premier trimestre 2022. Et oui, 135 millions d'euros ont été investis dans des murs de résidences étudiantes en France au premier trimestre, soit une progression de 1250% sur un an. C'est considérable. Donc ce fort rebond a été particulièrement engendré par le dynamisme des investisseurs étrangers qui ont été à l'origine de 90% des sommes engagées. Et cette progression de marché est plus que la bienvenue puisqu'elle ravive les couleurs d'un tableau terni par la pandémie de Covid-19. Rappelons que le volume investi en résidence étudiante était passé de plus de 860 millions d'euros en 2019 à 316 en 2021 et à 146 en 2021. En 2020 et 2021, pardon. Mais approfondissons le sujet avec nos deux invités experts du thème.
Les invités du carré.
Merci beaucoup Audrey pour cet édito. Alors on va rentrer justement dans le vif du sujet avec nos invités. Premier invité donc Pascal Recorbet, président fondateur du groupe Néméa, dont Néméa Appart Études fait partie. Hein, donc alors vous allez nous expliquer, en fait vous faites vous avez plusieurs activités. L'une d'entre elles c'est les résidences étudiantes. Mais alors expliquez-nous un petit peu ce groupe qu'est Néméa.
Donc j'ai créé le groupe il y a environ 29 ans et on a commencé par les résidences de vacances, les résidences gérées. Après, on s'est développé sur la résidence affaires de centre-ville. Et nous avons continué notre développement sur les résidences étudiants, puis le co-living, puis l'hôtellerie. Et donc, on ouvre environ entre 5 et 10 résidences par an.
Depuis combien de temps ?
Bah depuis bien 10 ans, on ouvre à ce rythme-là les résidences affaires, étudiants et mixtes et étudiants. Donc.
Alors j'imagine que peut-être pendant le Covid, il y a eu peut-être un ralentissement, notamment sur les résidences étudiantes, parce que. On l'a vu, hein, les étudiants sont repartis chez eux.
Alors nous on est situé quand même dans des zones très très demandées.
D'accord.
Donc on a eu certes des étudiants qui sont rentrés chez eux pendant le Covid, mais ça n'a pas été, je dirais, la débandade comme ça. Et au niveau du développement des nouvelles résidences, comme nos résidences sont signées grosso modo avec les promoteurs 3 ans à l'avance à peu près, on a quand même ouvert des nouvelles résidences même pendant le Covid.
D'accord. Alors justement, là vous dites, hein, vous avez signé avec des promoteurs. En fait, vous n'avez pas les murs, donc vous êtes exploitant de résidences étudiantes, vous n'avez pas les murs. Comment ça se passe du coup ? Vous occupez de quoi au
final ? Alors, c'est-à-dire qu'un promoteur construit une résidence, il choisit soit une résidence à faire, soit une résidence de tourisme, soit une résidence étudiant ou un hôtel, en fonction du site géographique. Et il la commercialise en résidence, par exemple, étudiante. Et nous, il nous envoie son projet. On fait un benchmark de tout ce qu'il y a dans la partie où il veut construire sa résidence.
Donc les facs, les écoles.
Les moyens de déplacement qu'auront les étudiants. On fait un bilan d'exploitation. De ce bilan, on va donner la rentabilité qu'on va verser à l'investisseur pour un minimum de 9 ans. Et donc, là-dessus, le promoteur construit, commercialise, soit avec un réseau ou à des investisseurs privés ou institutionnels. Et nous gérons ce bien pour le compte de l'investisseur pendant minimum 9 ans, mais ça peut aller jusqu'à 20 ans ou plus.
Donc, vous l'aviez dit, à la base, c'était vacances, etc. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le développement de résidences étudiantes?
Là, on s'est développé en résidence étudiante d'une manière très très simple. J'ai des enfants qui ont 28 et 25 ans, et quand il a fallu les loger pendant qu'ils faisaient leurs études, ça a été la galère, comme beaucoup de Français qui ont des enfants qui font des études. Et j'ai dit, je sais gérer des résidences de touristes, je sais gérer des résidences de centre-ville. Eh ben, on va gérer des résidences étudiantes. Donc, j'ai débauché une directrice pour faire le job. Et on en s'est lancé 1, 2, 3. Et maintenant, on en a 36 et on en ouvre, je vous dis, environ 3 à 5 par an.
Donc, actuellement, vous exploitez 36 résidences étudiantes.
36 résidences étudiantes pour un chiffre d'affaires, grosso modo, de 25 millions d'euros.
Et quand vous vous êtes lancé, combien il y avait de résidences étudiantes en France, à peu près ?
Ah ça, je peux pas le dire, il y en avait quand même pas mal, parce que nous, il y a des sociétés qui avaient déjà monté ce genre de gestion, mais c'est vrai qu'on devient un des plus gros gestionnaires de résidences.
Et c'est un marché très porteur, puisque je le rappelle, il y a une énorme pénurie de logements étudiants en France, et c'est un problème puisque ça freine les jeunes dans l'accès aux études. Il y a véritablement un manque à ce niveau-là. Quels territoires sont porteurs ? Tout à l'heure, vous parliez de territoires plus dynamiques que d'autres. Lesquels sont-ils ?
Alors, je dirais qu'il y a une demande partout. Il y a des demandes, bien évidemment, dans les grosses villes universitaires, Rennes, Bordeaux, Paris, où tout le marché immobilier est très tendu. Donc là, il y a une problématique, c'est trouver des terrains, pour les promoteurs, c'est trouver des terrains suffisamment attractifs, justement, pour que l'étudiant puisse se déplacer facilement, aller au fac en moins de 15 minutes, par exemple. Donc, tous ces territoires sont intéressants. Après, je dirais qu'il y a des villes comme La Rochelle, qui est une petite ville, mais où il y a beaucoup d'étudiants. Et là, on ouvre 2 résidences, par exemple. Où on a ouvert à Montpellier 5 résidences avec le groupe Sogeprom. On a signé un partenariat pour construire 5 résidences. Et les 5 résidences, la 5e arrive l'année prochaine, mais les 4 résidences qu'on a ouvertes avec eux sont archi-complètes et on a des listes d'attente incroyable.
C'est vrai que Montpellier, on a vu ça dans d'autres émissions, c'est très très dynamique. Hein. Ouais, c'est très jeune, très dynamique, très étudiant. Il y a plein de start-up qui s'y installent. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un beau territoire. On peut parler de la résidence étudiante de demain. Selon vous, à quoi ressemblera-t-elle ?
Alors, le problème, je ne suis pas Madame Soleil, mais en tout cas, on entrevoit...
Ce que vous voyez, en fait, les envies qui émergent...
Les envies, c'est surtout... Alors, pas trop... ça va changer, je crois, pas trop au niveau de l'hébergement, mais ça va changer au niveau du partage, du style de clientèle. Il y aura, je pense, plus de mixité, plus d'interaction entre des étudiants et des générations. On a déjà quelques projets, par exemple, où dans une résidence étudiant, on met 4-5 appartements ou une salle pour les associations de seniors, et on fait un peu d'intergénérationnel, on fait des jardins et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça, je trouve que c'est bien, et je pense qu'on va vers là, vers par exemple des frigos solidaires. On a mis un frigo solidaire, on a testé le truc.
C'est quoi un frigo solidaire?
C'est-à-dire que ceux qui partent en vacances ou qui ont des restes, machin, ils mettent au frigo et puis il y a certains étudiants qui partagent ou qui se font dans notre on a des cuisines partagées. Et s'ils ont envie de faire une petite bouffe entre copains, et ben ils amènent tous dans, et puis ils se font la cuisine ensemble.
C'est génial.
Donc il y a beaucoup de partage et je pense quand même que on va vers ça, puisque dans les grandes villes c'est quand même très difficile de trouver des amis, des copains, des machins.
Et ça, voilà. Vous sentez ces nouvelles générations, vous sentez qu'elles ont envie de ça, envie du partage, envie du vivre ensemble.
Du vivre ensemble, alors avec chacun son petit coin privé, avec on mélange pas la salle de bain, c'est pas trop de la colocation, mais ils ont une partie à eux, de l'intime, et puis s'ils ont envie, par exemple, dans nos résidences, je sais pas si j'ai le droit de le dire, il y a Netflix, et ben ils vont voir tous une série, par exemple The Crown, parce que c'est à la mode en ce moment.
Ah oui, on est en plein dedans là.
On est en plein dedans, donc ils vont voir tous ensemble The Crown, et donc ça c'est des moments de partage, comme je vous dis, la petite bouffe entre potes, ou même avec leurs parents. Dans nos résidences, par exemple, on a un appartement dédié. Alors, on n'en a pas 50, mais on en a un. Si, par exemple, les parents veulent voir leur fille ou leur garçon, donc ils peuvent loger dans la résidence en demandant un appartement gratuitement. Ils logent. Donc, c'est des moments de partage. Et en plus, on a une clientèle aussi, des fois, de jeunes actifs qui travaillent. Donc, eux,
Avec les étudiants,
on a un tout petit pourcentage de jeunes actifs.
D'accord.
Et donc, ça fait une mixité dans les résidences. Et on construit aussi des résidences mixtes.
Donc, mixtes avec les générations et aussi avec les personnes qui travaillent.
Avec les clients, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Ça peut être une partie de résidence affaires avec une résidence étudiant, avec certains lieux cloisonnés chacun chez soi, mais ils peuvent aussi être mélangés c'est un mélange culturel de discussion et puis on tend vers aussi
et ça fonctionne bien, ça, ces mélanges,
ouais,
cette mixité
bien. Alors il faut bien doser, faut bien le gérer avec des badges informatiques et tout ça, mais bien gérer, ça marche très très bien.
Ouais. Y a-t-il beaucoup de litiges entre étudiants quant à ceux qui souhaitent réviser et d'autres font la fête ou comment gérez-vous cela ?
Alors nous c'est pas le Club Med, malgré que je sorte du Club Med, c'est pas le Club Med nos résidences. Ils sont là quand même pour bosser parce que on a quand même deux clients. Il y a les parents souvent qui payent et les enfants qui habitent et qui louent nos appartements. Donc non, il y a des moments de convivialité, mais c'est pas la foire et tout ça. Nos résidences sont gardées 24/24 et il y a pas, alors je vais être il y a pas de fiesta pour savoir qu'en faire parce qu'ils sont là quand même pour bosser de façon sympathique, ils peuvent faire un repas et tout ça, mais c'est pas le souk.
Et alors, juste dernière question, le profil de ces étudiants, est-ce qu'il y a des étudiants boursiers ou pas du tout dedans?
Il y en a. En plus, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, on a une association à but non lucratif qui s'appelle Sœurétude et qui gère des appartements sociaux.
Oui, parce que ça, c'est un gros problème. Je vais quand même donner les chiffres. Il y a 700 000 étudiants boursiers en France et il n'y a que 233 000 logements à caractère social. Ouais. Donc, vous voyez, il y a un gros, gros manque, une grosse pénurie de logements. Hein.
Tout à fait. Alors, soit c'est une commune qui donne un permis de construire à un promoteur qui dit ben là vous allez faire 10% de social dans votre résidence, ou alors on fait, parce que le promoteur souhaite le faire et tout ça, on fait 10 ou 15 appartements social qui ont exactement la même déco, les mêmes avantages, les mêmes services, puisque dans nos résidences il y a salle de gym, il y a cuisine partagée, il y a des salles télé, des salles ciné, voilà. Donc même les appartements moins chers ou social bénéficient des mêmes prestations. Donc et c'est une société à nous qu'ils gérons. Bon, c'est une société qui gagne pas d'argent, mais ça permet aussi toujours cette mixité et je trouve ça fait le lien de convivialité et tout ça, et je trouve ça plutôt très sympa.
C'est important, oui. Merci Pascal. On va passer à notre deuxième invité, Louis Romieux. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes toujours là?
Très bien.
Super.
Toujours en ligne.
Président donc du groupe Atao, promoteur cette fois-ci de résidence étudiante. Alors, première question, peut-être vous allez nous présenter le groupe Atao et nous expliquer en fait quelles sont les problématiques actuelles rencontrées par un promoteur de résidence étudiante.
Eh bien, le groupe Atao est un groupe que j'ai créé il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans précisément, en 2012, en fait, qui était une filiale d'une société qui s'appelle Filia, qui travaillait sur la région parisienne. Et donc, en 2011, on a décidé de venir s'installer en province pour continuer à développer des opérations, notamment des résidences d'immobilier gérées. La première opération qui a été développée était en Loire-Atlantique, donc à La Baule, et c'est comme ça qu'on s'est installé en province. Donc on a continué à développer nos opérations sur le Grand Ouest tout d'abord, et puis en 2014, j'ai racheté 100% de la filiale et que j'ai continué à développer sur la région parisienne et dans la région des Pays de la Loire, essentiellement.
D'accord. Et du coup, alors, quelles sont les problématiques que vous rencontrez actuellement, justement ? On parlait des pénuries de logements, peut-être avec la loi climat et résilience, je ne sais pas, j'imagine que c'est de plus en plus compliqué.
Aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de problèmes qu'on rencontre pour développer nos opérations. Donc, je pense que déjà, il y a effectivement la problématique de la disponibilité du foncier qui s'accentue, on va dire, avec les lois qui arrivent. La loi ZAN aujourd'hui est un vrai handicap pour nous dans le développement de nos opérations.
Alors je rappelle juste que la loi ZAN, c'est la zéro artificialisation nette, je vais y arriver, nette des sols. Donc on ne peut plus construire et c'est compliqué pour un promoteur du coup.
Alors c'est compliqué, alors il faut s'adapter hein, et donc aller chercher, on va dire, du renouvellement urbain. Donc c'est pour ça que nous on a pris ce parti depuis plusieurs années, de travailler en concertation avec les collectivités, d'essayer de trouver des fonciers qui sont d'ores et déjà construits, de les transformer, de les adapter pour recevoir des projets qui répondent aux besoins des collectivités et des habitants, notamment des étudiants. Là, sur Angers, on a réussi à développer une opération donc avec qui s'appelle la Tour Type. On a fait un peu plus de 220 logements. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette loi, on aurait eu beaucoup de difficultés à la réaliser, puisqu'on est parti sur un foncier qui était totalement vierge, qui est un ancien terrain agricole.
D'accord.
Aujourd'hui, ça ne serait plus possible, je pense.
Alors, on parlait des investisseurs tout à l'heure. Est-ce que vous constatez un fort intérêt de la part de ces investisseurs immobiliers ?
Alors, je pense qu'il y a effectivement un intérêt qui est extrêmement important, comme le disait Pascal tout à l'heure. Dès qu'on est dans des grandes villes, à proximité des universités, il y a un intérêt qui est extrêmement important. L'opération qu'on a développée sur Angers, c'est un exemple, mais c'est commercialisé extrêmement rapidement à des investisseurs. On a mis moins de 5 mois pour vendre les 180 logements. Et ce qui a quand même été une vitesse assez exceptionnelle, donc qui témoigne parfaitement, je trouve, de l'intérêt des investisseurs pour ce type de projet d'investissement.
Et alors, c'est quoi le profil de ces investisseurs ? Tout à l'heure, Audrey parlait de 90% qui sont des investisseurs étrangers. Est-ce que c'est ce que vous constatez également ?
Alors, pas du tout. Et nous sommes un cas particulier puisqu'on travaille essentiellement sur les régions et pas forcément en Île-de-France. On a travaillé sur Le Mans, on a fait une très belle résidence étudiante, Angers également, où là, on a plutôt des investisseurs régionaux, donc des particuliers qui achètent appartement par appartement et qui placent leur épargne dans ce type d'investissement. Néanmoins, aujourd'hui, ce que disait Audrey est peut-être tout à fait avéré, c'est que sur les constructions d'immeubles, en tout cas les projets qui sont en train de se monter, on a beaucoup d'investisseurs institutionnels et quelques investisseurs étrangers qui souhaitent se positionner sur des projets d'immobilier étudiant dans l'ouest de la France, notamment sur les villes d'Angers et de Nantes.
Donc, vous avez répondu à ma prochaine question presque, c'est savoir si le marché français était encore porteur ou s'il était arrivé à maturité.
Bah écoutez, moi je pense que le marché français est encore extrêmement porteur. Comme le disait Audrey tout à l'heure et Pascal, il y a un déficit de logements étudiants en France qui est colossal. Et je pense qu'il va nous falloir beaucoup d'années pour arriver à maturité. Et je pense que l'investissement dans l'immobilier étudiant a beaucoup de beaux jours devant lui.
Alors c'est ce que je disais, hein, il manque énormément de logements étudiants, puisque en France on n'en compte que 380 000 actuellement, hein, donc là ça comprend public et privé, et on a l'impression que ça va de pire en pire. Quand on est promoteur comme ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire, qu'est-ce qu'on se dit?
Ben, on essaye de travailler en tout cas étroitement avec les collectivités pour orienter les projets et apporter une réponse, on va dire, satisfaisante à tous les jeunes. Donc c'est vrai que c'est un travail qu'on a effectué depuis plusieurs années, où on s'intéresse plutôt au parcours résidentiel d'un jeune qui sort de l'école. C'est-à-dire qu'on l'accompagne dans son arrivée à l'école, dans son arrivée à l'université. On lui propose un premier logement avec des services. Et puis on va essayer de développer autour de la résidence étudiante du logement plus traditionnel, de manière à ce que quand il finit ses études, il puisse s'insérer dans la vie professionnelle sans avoir besoin de changer de logement. Et je pense que ça, c'est un travail qu'on essaye de faire. Donc on le fait avec des partenaires comme Nemea ou d'autres, de manière à ce que le parcours résidentiel du jeune, quand il rentre dans la vie active, ne s'arrête pas brutalement à la fin de ses études, mais qu'il puisse y avoir un accompagnement qui va au-delà. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec les collectivités dans le développement de nos nouvelles résidences étudiantes.
D'accord. Après, est-ce que c'est relativement fréquent un jeune qui reste dans le même territoire que là où il a fait ses études? Parce que bon, souvent on voit que à la sortie des grandes écoles, les jeunes postulent un peu partout en France. On connaît aussi les difficultés des entreprises à recruter en ce moment, et justement qui recrutent sur tout le territoire, qui essayent d'attirer les talents. Est-ce que justement les jeunes ne sont pas plus amenés à plus bouger dans les années qui arrivent?
Alors, pour que la mobilité, c'est effectivement une des grandes préoccupations pour les exploitants de résidences étudiantes. Nous, on le voit effectivement au cours du montage, on a des mairies qui cherchent, on va dire, à créer du dynamisme économique au niveau local, donc convertir, on va dire, leurs étudiants en futurs citoyens. Donc il y a un gros travail qui est fait avec elles. Pour autant, on ne convertit pas 100% des étudiants sur un parcours immobilier classique avec un emploi derrière. Ce qu'on constate, et ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est que il y a effectivement un besoin en hébergement qui est extrêmement important, notamment pour les entreprises qui cherchent des solutions d'hébergement pour leurs jeunes recrues. Donc probablement qu'une mixité dans les résidences serait intéressante, avec des possibilités d'hébergement pour les professionnels qui souhaiteraient voir arriver des nouveaux collaborateurs, et un travail en synergie avec les exploitants pour mettre à disposition certaines parties de la résidence ou certains appartements pour satisfaire les besoins des entreprises.
Et alors,
c'est quelque chose qu'on constate beaucoup, notamment sur une ville comme Saint-Nazaire, qui est une ville qui est en plein emploi, où il y a effectivement une université qui est présente, avec ce vrai problème pour les employeurs de trouver de l'hébergement. Il y a des synergies à trouver, je pense.
Oui, c'est vrai que les entreprises sont preneuses de tout ce qui pourrait attirer justement les talents. Même question qu'à Pascal Recorbet, à quoi ressemblerait pour vous la résidence étudiante de demain?
Ben, je pense que la résidence étudiante de demain, c'est une résidence qui serait probablement un peu plus verte que ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, je rêve en imaginant des résidences étudiantes un petit peu plus à la campagne. En restant quand même à proximité des transports en commun, pour que les trajets ou les temps de trajet entre le logement et le lieu de formation soient pas trop importants. Je pense que le partage aussi a aussi beaucoup de place dans la future résidence étudiante. Je pense que on peut être connecté vers le monde de l'extérieur avec des connexions internet, etc. Mais je pense que d'être connecté à ses voisins avec des lieux de convivialité plus importants, plus généreux, serait quelque chose d'extrêmement intéressant pour permettre à tous ces jeunes d'avoir une vie sociale très agréable. Et je pense que les confinements successifs qu'on a pu rencontrer nous ont ouvert les yeux, on va dire, sur les difficultés notamment des jeunes à avoir des liens sociaux et conserver des liens sociaux. Et je pense que les espaces de partage, la générosité des espaces de partage va être fondamentale dans les années à venir pour les résidences étudiantes.
C'est vrai, je vois Pascal qui est d'accord. C'est vrai que les confinements hein, ont révélé ça, ce besoin des étudiants d'être ensemble. Eh bien, l'émission touche à sa fin, ma très chère Audrey. Merci à Pascal Recorbet, président fondateur de Néméa Apart-Études et plus généralement du groupe Néméa d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Louis Romieux, président du groupe Atao, d'être là à distance pour cette émission. Merci Audrey.
Merci Bérénice.
Audrey Jourdain, rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Mag au Carré.
Le Mag au Carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.